Merci d'être avec nous. On est en osmose, je viens de le dire, et puis je le répète. Et on va aller se balader du côté de Pernes-les-Fontaines, la cité, la perle du Comtat. C'est ça. Vous connaissez donc les slogans de Pernes-les-Fontaines,
oui,
qui est une ville très attachée à ses traditions et à ses fontaines, notamment. Et là-bas, il y a un truc qui est très traditionnel aussi, c'est le motocross. C'est très connu quand même.
Beaucoup.
Hein, et pas très loin du motocross, et ben il y a le club de Jade Eva Bartos. Bonjour Jade.
Bonjour.
J'ai oublié le nom. Comme ça...
Le Chant des Chiens.
Le Chant des Chiens.
Quand même.
Bah oui, je l'avais noté sur un autre papier. Puis enfin, c'était mon téléphone, je l'ai éteint. Le Chant des Chiens, du côté du motocross.
Exactement.
On y va enfin, c'est quoi? C'est une sorte de petit club où on va avec son chien?
C'est ça, c'est très facile à trouver. Et en règle générale, on peut venir avec tous les chiens de tout âge, de toute race. Et les week-ends, on organise beaucoup d'activités telles que les écoles du chiot, les écoles des ados. On fait un petit peu de randonnée éducative, on a repris les randonnées éducatives. Et on peut avoir les ostéopathes comme Tiffaine qui sont là et qui sont présentes et qui, à n'importe quel moment de la séance ou de la journée, peut prendre un chien en communication animale ou en soins énergétiques, quoi.
SOS Tiffaine.
Exactement. C'est une grande aide.
Tiffaine Leleu, oui, vous êtes ostéopathe animalier.
Exactement. Je travaille un petit peu, je travaille sur tous les animaux, je travaille sur, principalement sur du chien. Mmh. Et après, je viens travailler aussi sur tout ce qui est chevaux, chiens, chats, vaches, les petits animaux de compagnie aussi. Et je travaille
les
beaucoup.
Lapins nains, tout ça, ça marche?
Oui, 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 ça marche.
Remarquez, ils ont des os et des articulations.
Exactement.
Hein.
Ouais, ça, ouais. Exactement. On peut même travailler sur des tortues, sur
mais bon,
quel...
il paraît que les rongeurs, ils ont les os plus. Les articulations plus élastiques. Donc,
oui, ils sont beaucoup plus petits et beaucoup plus fins.
Voilà.
Ah ben, un animal qui va avoir du mal à sauter, par exemple pour un petit lapin, ou des problèmes de digestion, c'est assez recommandé de travailler, justement.
Et vous faites aussi donc conseillère en comportement
Exactement, moi je fais plutôt l'aspect énergétique et psychologique de l'animal aussi en énergétique. Mmh. Donc la communication animale, et souvent ça j'interviens chez Jade... pour la communication animale, sur des chiens qui ont des problématiques qui sont plus longues à régler en éducation.
Mais oui, l'ostéopathie, ça n'intervient pas pour l'éducation. Quoique si le chien a mal quelque part, ça peut aider.
C'est un gros lien, c'est un gros lien au niveau du comportement. Un chien qui a mal, des fois c'est bête, hein, mais un chien qui est agressif, en fait, c'est juste qu'il a mal quelque part.
Oui.
Donc le fait de travailler avec une ostéopathe derrière, c'est bien. Et moi en éducation, je vais peut-être voir aussi, parce que moi, les personnes, je les ai avec moi pendant 4 mois. Donc les chiens, c'est un vrai suivi. Donc c'est vrai que pendant 4 mois, je peux voir aussi certaines choses et je fais appel à Tiffaine derrière qui vient en complément. Et franchement, c'est super, quoi. Un chien qui a des problèmes de croissance, des fois, je me pose des questions voilà, sur sa digestion. Là, je vois qu'il boite un peu. Bon, bah, du coup, Tiffaine, elle vient, elle appuie elle aussi son avis. Et puis après, c'est elle qui prend la personne avec elle, quoi.
Vous pouvez définir si un problème avec un chien vient de quelque chose de physique, quoi.
C'est ça.
Oui.
C'est ça. En voyant son comportement, on peut voir sa façon de se déplacer et d'interagir avec.
Des tocs, quand il aura des tocs, bon, bah là.
Les tocs, c'est des problèmes de comportement.
Oui, c'est ça.
C'est là que vous intervenez aussi.
Alors exactement, mais c'est pour ça qu'on arrive bien, du coup, on est bien en lien toutes les deux par rapport à ça, quoi. C'est super pratique.
On dit souvent que ça vient du maître. C'est l'humain qui fait le truc, non? Si j'ai un comportement avec mon chien...
En fait, c'est 80% du comportement du chien, c'est celui du maître. Donc en fait, il n'y a que 20% où réellement, ça va être la génétique. En fait, ces 20%-là, c'est la génétique du chien, ce qu'il a vécu quand il était petit avec sa mère. Et le reste du temps, de ses 3 mois, en fait, jusqu'à sa fin de sa vie, il est avec son maître. Donc oui, la plupart des problèmes, c'est parce qu'on a mal fait, on a mal communiqué avec le chien, on lui a mal montré.
Il ne trouve pas sa place au milieu de tout ça.
C'est ça, vous voyez, le mimétisme, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport à la voiture ou les choses comme ça, c'est que du mimétisme. Le chien, il vous voit faire, il vous entend parler aussi. Donc, il prend un peu
c'est
ce comportement-là.
Il nous regarde 24 heures sur 24.
Et oui, il prend la moitié de ce comportement. Donc, effectivement, si vous avez mal fait des choses, vous avez mal interprété ce que lui a voulu vous dire, très vite, après, ça peut dégénérer et prendre des mauvais comportements. Et voilà.
D'où l'intérêt d'aller voir de temps en temps le Chant des Chiens.
Exactement, une fois de temps à autre, ça fait du bien.
Alors quand ils se retrouvent tous ensemble, les chiens, il n'y a pas de bagarre et tout, comment on gère? Parce que c'est...
Franchement, moi je sais que j'ai un chien régulateur, et puis bon, j'ai quelques chiens aussi de mes bénévoles, puisque j'en ai entouré de pas mal de bénévoles. Et soit c'est eux qui règlent le problème s'il y a des bagarres, soit on va mettre des muselières si vraiment le chien il est agressif. Et sinon, on passe en bilan, parce que moi, avant de rentrer en groupe, il y a quand même des bilans qui se font, où les personnes m'appellent directement par téléphone, et soit ils me disent « Non, il n'y a pas de problème avec les chiens, tout se passe bien. » Donc là, non, il n'y a pas de bagarre, c'est très rare qu'il y ait des bagarres, c'est vraiment très rare. Et puis auquel cas, ça se sépare, nous, on travaille avec des petites bouteilles magiques. Donc c'est des bouteilles qu'on remplit de gravier, donc un fond de gravier avec une grande bouteille. Et si le chien commence à grogner ou commence à avoir une position qui n'est pas forcément favorable, on lui lance la bouteille dans les pattes ou à côté.
Et ça change la tension.
Ça change tout, en fait. Mais parce que ça le surprend. Il faut vraiment arriver en surprise derrière le chien et puis lui lancer. Mais comme il ferait entre eux, en fait. Hein, c'est tout bête, on reprend un schéma.
Bah vous dites chien régulateur. C'est vrai que j'ai vu des fois une femelle, par contre, se mettre entre les...
Oui, c'est ça. Femelle, mâle.
Quand ça commence à grogner un peu, elle se met au
milieu.
Même
des petits Jack Russell peuvent être des chiens régulateurs.
C'est marrant.
C'est toutes les races.
Donc ils ont ça en eux aussi de calmer le...
C'est ça, en fait c'est tellement à force d'être dans la communication, de voir des chiens encore qu'ils rentrent dans le tas et puis ils séparent quoi. Ils savent comment il faut être en fait entre les chiens. Ils connaissent toutes les communications, ils connaissent toutes les formes, donc dès que ça se bagarre confiance. Un peu ou dès qu'il y a une mauvaise communication... l'école des chiots, c'est super parce qu'on a des chiots qui courent partout. C'est un peu comme des enfants. Vous prenez des enfants, vous les mettez dans une classe sans maîtresse. Il ne peut pas y avoir de correction, ils ne peuvent pas évoluer. Et bien, l'école des chiots, c'est un peu pareil. Si on les laisse tout le temps entre eux et qu'il n'y a pas de régulation derrière, ils ne peuvent pas savoir s'ils font bien ou non. S'ils jouent un peu trop fort, s'ils sont un peu trop excités. Donc c'est bien d'avoir un régulateur dans ces moments-là. Quoi.
Ce qui est important quand on a un chien, si j'ai bien compris, c'est qu'il fréquente d'autres chiens. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est
pour apprendre à parler chien, pour apprendre.
Exactement.
Et puis, il ne faut pas l'enlever de sa mère trop tôt parce que je pense qu'elle lui apprend énormément de choses.
Et encore, pour moi, 2 mois, c'est peut-être un peu trop tôt.
Ça me paraît un peu tôt.
Oui, pour moi, 2 mois, c'est un peu trop tôt. Ça commence beaucoup à revoir cette histoire de 2 mois. On passe sur du 2 mois et demi, voire même 3 mois. Le temps de la socialisation.
Moi, le mien, j'ai attendu 4 mois, en fait.
Non, mais c'est bien.
C'est bien.
Et j'ai bien aimé parce qu'il est vraiment. Il a capté
plein de trucs que j'avais pas avec mon chien.
Oui, voilà. Il a beaucoup plus de connaissances. Il est plus posé.
La mère lui donne les codes à faire. Et...
Après, le seul problème, si vous le récupérez à 3-4 mois, c'est qu'il faut être bien. Il faut faire attention parce que le problème, c'est que ça veut dire que pendant 3-4 mois, votre chien, si les personnes, les éleveurs ou les propriétaires qui ont fait la portée ne sortent pas le chien, ça veut dire quand même pendant 3-4 mois, il n'aura rien vu.
Ah oui,
il
non, bah c'est justement, c'est pas par hasard.
Donc il faut arriver vraiment à se dire ok, là, je vous le laisse jusqu'à 3 mois, le chien, enfin, vous le gardez jusqu'à ces 3 mois. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon premier chien, mais à condition que derrière, voilà, vous essayez un peu de le sortir, vous essayez de.
Ah oui, c'était le principe. Là, l'éleveuse, elle lui a appris à rester seule, elle l'a amenée chez une copine, l'a laissée chez la copine. Puis bon, pour les besoins aussi, il faut qu'il apprenne le terrain, c'est ça. Sinon, il va apprendre à faire sur la moquette et ça serait une catastrophe.
Non, c'est sûr.
Donc, il faut quand même que l'éleveur joue le jeu. Et c'était lui qui me l'avait proposé. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, ça se voit. Quand ils savent communiquer entre eux, c'est pas pareil quand même.
C'est différent.
Vous jouez avec ça aussi ? Quand on a un problème de comportement d'un chien, on peut utiliser d'autres chiens pour essayer de régler ce problème ?
Oui, le mimétisme, ça marche aussi. Ça marche pas à tous les coups, mais avec de la répétition, ça peut marcher le mimétisme, pour, même pour des positions, pour du coucher, pour du assis, pour plein de choses. Donc, les chiens, ils s'observent beaucoup entre eux quand même.
Il y a d'autres trucs qui m'étonnent, c'est cette volonté humaine de toujours vouloir coucher ou asseoir le chien. Assis, coucher, c'est...
Eh bien, c'est des positions d'apaisement, quand même.
Oui, mais quand même.
Quand même, c'est des positions d'apaisement.
C'est bizarre, je trouve.
Vous avez un chien qui est toujours debout au restaurant, ou n'importe où. Là, on est assis, on a un chien tout le temps debout à côté, c'est pas normal, c'est que le chien ne se sent pas bien. Par contre, s'il s'assoit ou s'il se couche, là, c'est des positions d'apaisement. Et nous, ça nous fait voir que le chien, il est quand même bien. Il est quand même à l'aise.
Regardez Nemo, par exemple. Depuis qu'on a commencé à parler, il s'est mis dans un coin, je lui ai pas dit coucher.
Oui, voilà, oui, non, mais c'est
ça. Il capte tout de suite qu'il arrive à faire debout en train de courir dans tous les sens.
Donc, le fait de leur apprendre le coucher, ça leur apprend aussi à se calmer et puis à se mettre dans des positions.
À se canaliser un petit peu.
Donc,
Puis ils aiment obéir. C'est vrai qu'ils aiment obéir quand même.
Oui, mais même l'auto-éducation, l'auto-éducation, c'est super. Vraiment, que le chien s'éduque tout seul, entre guillemets, c'est super. C'est là où en fait, il apprendra beaucoup plus vite comme ça que si on lui apprenait. C'est tout bête, mais moi, des fois, je fais des séances d'une heure où on parle pas. Pendant une heure, on va faire comprendre avec la gestuelle de notre corps, partir, on va s'éloigner et on va laisser le chien s'asseoir ou se coucher tout seul. Ou envoyer des signaux, et en fonction de tout ce qu'il va nous envoyer comme signaux, de ce qu'il aura fait, je ferai revenir la maîtresse ou le maître à lui. Et on peut travailler des fois comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, et plus parler du tout, quoi. pour la séparation du maître, par exemple, c'est super bien. Mmh. Parce que mettre un chien en pas bouger, c'est bien. S'éloigner, c'est bien. Sauf que quand on part de la maison et qu'on dit rien au chien, ben là, il commence à stresser. Alors que si on lui dit pas bouger, il stresse plus. Mais c'est pas possible. On peut pas mettre le chien en pas bouger tout le temps quand on part.
On peut inventer un ordre pour le dire.
Eh ben non, du coup, faut travailler justement. Faut travailler sans rien dire en fait la séparation avec le chien quoi.
C'est une question d'habitude aussi.
C'est ça. Il faut l'habituer le plus tôt possible. À deux mois, dès que vous récupérez le chien, il faut partir.
Qui hurle à la mort, dès qu'on part, etc. Et puis l'autre, comme Nemo, à qui on l'habituait très, très jeune à rester tout seul, quand on revient, il fait une grosse fête, mais en vérité, il pleure pas du tout, on l'entend pas, personne ne sait qui est là à la maison.
Après, c'est difficile pour un chien, c'est normal de vous voir partir, et puis il est toute la journée tout seul, il a rien à faire. On en demande beaucoup aux chiens quand même.
Oui, puis c'est des animaux qui sont pas faits pour vivre seuls, normalement.
Et puis ils sont pas faits pour vivre seuls, ils sont pas faits pour être couchés et dormir toute la journée, ils sont pas faits du tout pour ça, quoi. Donc, ils ont besoin de 2 heures d'activité par jour au moins, quoi.
D'accord. Même un petit cavalier King Charles.
Toutes les races. Et quand je dis activité, c'est pas forcément physique. Attention, ça peut être le mental aussi. Et de toute façon, un chien sera beaucoup plus fatigué. Ça, encore une fois, ça dépend des races. Mais vous le fatiguerez beaucoup plus vite avec 2 heures d'exercice mental que 6 heures de randonnée. Autant en 2 heures, vous l'avez tué pour 2 jours, quoi. Ça dépend des races.
C'est l'idée de l'exercice mental. On le fait faire des mots croisés.
Vous pouvez essayer, il y a des chiens qui apprennent à parler.
Ah oui, c'est vrai.
Je sais pas si vous avez vu ça, une dame avec des boutons apprend à son chien à parler, en fait, et elle parle avec son chien comme
c'est
ça.
C'est dingue.
C'est incroyable. Mais comme quoi, on peut tout leur apprendre. Donc, non, des exercices mentaux, ça peut être.
Mais surtout, ils comprennent tout. C'est ça aussi que ça veut dire.
Oui.
Parce qu'on voit les gens qui traitent leur chien comme s'ils étaient un peu idiots.
En vérité, ils
captent tout, quoi.
Ça retient beaucoup. Ça peut retenir plus de 1000 mots. Alors, vous voyez.
C'est plus que moi, je crois. Plus que certains humains, d'ailleurs. Tout ça, c'est pour dire que le 10 juillet, on va pouvoir discuter comme ça, découvrir des professionnels autour de l'animal, du chien. Vous en faites partie, Tiffaine ?
C'est ça, moi j'en fais partie. Donc il y aura tout ce qui est ostéopathie animale, éducation avec Jade, des masseurs canins et animaliers en général, des toiletteurs et d'autres professionnels qui font partie aussi du monde animalier. Énergéticien,
communication animale.
Communication animale, moi je le fais aussi, donc je serai présente là-dessus aussi, mais d'autres types d'énergétiques, comme tout ce qui est shiatsu, qui est en ce moment assez en vogue pour les chiens.
Pour les chiens ?
Et pour les chevaux, oui. Tout ce qui est reiki, bioresonance.
Après, il y a ostéopathie, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas.
Exactement. Moi, je ne savais pas non plus.
Ouais, parce qu'on connaît bien pour les humains, c'est énergétique, un peu chinois, sur les méridiens, tout ça. Mais
je n'aurais
pas pensé pour le chien.
Non,
vous, en tant que comportementaliste, éducatrice plutôt,
éducatrice,
comment
pareil,
vous voyez la communication animale ? Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu ésotérique, on va dire. Vous, en tant qu'éducatrice, parce que vous, c'est très terre-à-terre, très matériel. C'est le chien, on lui apprend à faire
forcément.
Ça, on communique comme ça.
Justement, c'est ce que je vous disais avec l'auto-éducation tout à l'heure, où j'aime bien que le chien comprenne les choses par lui-même. Et du coup, je trouve que la communication, c'est super, en fait. C'est super parce que ça développe certaines zones chez le chien. Puis ça détend aussi, en fait, le maître, consciemment. Ça détend aussi le maître. Donc non, franchement, je trouve que c'est très bien. C'est encore un
plus.
Mais
c'est télépathique.
Exactement.
C'est ça, Tiffany.
C'est ça. C'est une sorte de télépathie animale, on se met en connexion avec l'animal et il va venir un petit peu nous raconter sa vie, comment il le vit lui, et il va aussi énormément parler du propriétaire. Et ça, c'est ce que les propriétaires ont du mal à comprendre.
Ah oui ?
Oui.
Il ne vous révèle pas des secrets
indiscrets,
quand même.
Moi, justement, je suis toujours à dire au propriétaire, si vous avez des soucis, il va me dire qu'il y a un souci.
D'accord.
Mais il ne va pas me dire quoi et je ne veux pas le savoir. Parce que c'est pas mon travail.
Parce qu'on a pas mal d'histoires, des fois, de chiens qui révèlent un cancer ou une maladie chez son maître, soit en aboyant, soit en sur les champs. Donc on peut aussi avoir ce genre de communication. Le chien peut vous dire je suis inquiet, il y a quelque chose.
Oui, moi j'ai des chiens qui finissent des fois par me dire est-ce que mon propriétaire peut faire attention à ça ?
Lui
redonner confiance aussi.
Il vous le dit pas. Voilà. Si c'est l'alcool, vous allez boire un verre de vin ou quelque chose comme ça. Comment ça...
Non, il va me dire qu'il y a un souci qui va être plus ou moins intense. Voilà. Ça, c'est très propre à chaque chien ou chaque animal et même à moi.
Oui, mais la question, c'est comment il vous le dit ?
C'est des ressentis, des images, des mots, des émotions. Voilà.
C'est comme les phéromones, en fait. Hein, entre eux, ils arrivent à se comprendre, juste, même sans en médecine, ils ont des phéromones, ils arrivent à se comprendre. Ils ont...
Donc, ah oui, vous pensez que c'est avec les phéromones qu'ils se parlent ?
Ça peut être pareil. Bah, eux, ils arrivent beaucoup, par exemple, les coussinets avec la transpiration. Vous allez dans les cliniques vétérinaires, les chiens, je veux dire, ils stressent déjà quand ils rentrent dans les cliniques vétérinaires, même quand ils ne connaissent pas. Mais parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dégagées,
ils sentent le stress,
tellement d'anxiété, tellement de stress. Sous les coussinets, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, ça transpire beaucoup et ça transpire beaucoup toutes ces émotions aussi là, en fait. Donc je pense qu'entre les chiens, hommes et les chiens, c'est tout à fait possible.
Les chiens puent des pattes.
Ouais, c'est ça, peuple et des pattes aussi. Mais oui, non, ils transpirent beaucoup, ouais, ils sont très sensibles, ils peuvent ressentir des tremblements de terre à des milliers de kilomètres, enfin, ils sont vraiment très sensibles sous les coussinets, ouais.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, il s'inquiète de la santé de son maître, ou alors il y a quelque chose qui crée un malaise, donc il va essayer de vous le communiquer.
Exactement.
Et est-ce qu'il y a il y a quand même des animaux qui sont réfractaires, qui ne veulent pas communiquer ?
Ah oui. Oui, il y a des animaux qui disent « j'ai pas envie de parler, ça, il n'y a pas de souci ».
C'est marrant ce « je dire », que vous dites « qu'ils disent ».
Oui, bah en fait, c'est plus facile de dire « qu'ils disent », voilà, c'est perturbant, je sais.
Et oui, ça me perturbe,
mais
parce que j'ai...
ils nous font comprendre qu'ils n'ont pas envie de parler, parce qu'on ne ressent rien, et que l'animal, il a dit qu'il voulait faire autre chose.
Et puis, il peut vous expliquer aussi que lui a des douleurs ou des choses comme ça, vous ressentez la douleur,
oui,
par
oui,
exemple.
Oui, moi, je la ressens. Ouais. En fait, le fait d'être ostéopathe animalier... J'ai une facilité d'avoir le scan du corps physique.
Et oui, voilà.
Et donc l'animal, il va rapidement me dire, j'ai cette zone-là qui me fait mal. Et ça va être beaucoup en ressenti pour moi, voilà, sur mon propre corps. Et...
Ça demande beaucoup de temps, non ? Enfin, ça dépend, j'imagine. Mais il faut vraiment se laisser aller pour ressentir
oui.
ça.
Oui, oui,
faut
se
laisser aller. Pour qu'il y ait vraiment de l'émotion, de la sensibilité.
Il faut arriver à se connecter facilement, ne pas se mettre de barrières.
Pas trop intellectualiser, j'imagine.
C'est
que...
ça, le mental, c'est notre pire ennemi. Donc...
Si on imagine les textes, etc., c'est foutu. Je pense qu'on est à côté de la plaque.
Exactement.
Ah oui, ça demande quand même comment on appelle ça, une espèce de
décontraction,
un lâcher prise.
Exactement,
voilà.
Un lâcher prise.
Impressionnant.
C'est important.
Donc le 10 juillet, vous serez là. Il y aura de la communication animale, il y aura du massage, de l'éducation,
il va y avoir
comportement.
Un club équin qui va venir, donc avec des poneys pour les enfants.
C'est pas que le chien, alors là on est plus.
Mais parce que c'est pour proposer des activités, parce que c'est vrai que là on est pour l'instant les 12 stands, 13.
À Pernes, vous avez les ânes de Pernes aussi.
Oui, mais du coup on avait poney déjà. Donc,
oui, bon,
et puis ils sont pas disponibles en plus.
Et oui, ils sont
10.
Pas tout le temps, ils sont beaucoup.
Mais là on est déjà quand même 13 stands de professionnels. Alors on n'a pas trouvé les associations encore. À la première porte ouverte, on avait l'association MVO, donc bon, rien à voir, hein, mais c'était pour les enfants malades. Donc comme quoi, vous voyez, on cherche des associations aussi. Qui ne sont pas forcément qu'en rapport avec les animaux. Si c'est pour, voilà, pour les enfants malades, on accepte aussi d'avoir des stands comme ça.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on manque d'associations pour ces portes ouvertes-là. Elles n'ont pas toutes répondu. On a peut-être Frédéric Gaillane, donc c'est l'association de chiens guides d'aveugles à Velorgue. Donc ça, c'est les seuls qu'on a avec nous. Donc c'est vrai qu'on est un peu étonnés. Bon, c'est déjà bien, 13 stands de professionnels, ça fait beaucoup. Donc on s'est dit de mettre des activités au milieu, telles que le tir à l'arc et puis les poneys, en fait, c'est super, parce que ça crée encore autre chose. Il va y avoir une buvette sur place, donc de quoi avoir des rafraîchissements. Et potentiellement une paella le midi. On attend encore la
confirmation.
J'espère
qu'elle est végane, parce que...
Donc oui, c'est bon, ça, on se pose la question pour le food truck et la paella, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire.
Il n'y a pas de rapport,
aussi,
après on peut encore manger du jambon et aimer son chien,
oui,
c'est,
non, mais c'est ça.
Pas de problème.
Donc non, ouais, on essaye de... Sur la journée, on se fait ça, quoi, de 10h à 17h, 18h, on va essayer de se faire ça.
La première a eu lieu le mois de mai, le 22 mai.
Le 22 juin.
22 juin. Non, on est au mois de juin.
Le
22 mai.
Non, parce qu'on est au
mois de juin, on est début.
22 mai, ouais.
Le 22 mai, ça s'est bien passé, du monde.
On a eu, franchement, pour 5 heures, parce que c'était 13h30 à 17h, 16h, on a eu 120 personnes, donc c'est super.
Ah bah oui.
Franchement, c'est super.
Excellent.
Et avec beaucoup moins de stands, on devait être 6 stands, on n'avait pas les poneys, on avait un cheval. Non, franchement, là, ça va être super, on a vraiment prévu un gros truc. Et c'est vrai que c'est à l'ombre aussi, je pense, à rassurer là-dessus, quand même, c'est à l'ombre, parce que le terrain est quand même au-dessus de Pernes. Mais on est sous les sapins, on est sous les pins. Donc,
ah, c'est les pins. Je crois que c'était les chênes verts là-bas.
Non.
C'est les pins.
Si d'ombre.
On a une association, qu'on a envie de participer, c'est gratuit ?
Oui, non. Non.
Question,
alors,
parce
en fait,
que c'est peut-être pour ça qu'ils
ne
viennent
pas
aussi.
C'est 15 euros l'entrée par stand, parce que en fait, moi, je fais beaucoup de communication.
Pour avoir un stand.
Ouais,
oui,
c'est
voilà.
Ça.
15 euros, ça va.
Oui, parce que franchement, moi, derrière, je fais quand même beaucoup de communication, les affiches.
C'est ça, exactement.
On communique beaucoup après. Donc,
d'accord. Et si jamais on est intéressé, qu'on veut être là avec vous le 10 juillet à Pernes-les-Fontaines vers le motocross, là, comment on fait ? On vous appelle ?
On m'appelle ou on va sur le Champ des Chiens, sur la page Facebook directement, sur le site web ou sur mon téléphone directement. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours disponible.
Le Champ des Chiens.
Le Champ des Chiens, c'est... H-A-M-P. Je précise, pas comme chanter. Le chant comme champêtre. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui ne trouvent pas, parce qu'ils tapent. Et vous voyez que si vous tapez le chant des chiens, C-H-A-N-T, comme chanter, vous ne trouvez pas, en fait. Mmh. Alors que ça se ressemble.
D'accord, là, on est dans un chant.
Chant, exactement, voilà. On est dans un chant.
Et on est à Pernes-les-Fontaines le 10 juillet, vers le motocross. Comment s'appelle cette...
Chemin des Traversiers.
Le Chemin des Traversiers, voilà. Donc, on va jusqu'au bout, là-bas.
Au milieu. Ouais. De toute façon, il va y avoir des panneaux.
Des panneaux,
il faut bien regarder, mais... GPS, Google Maps, il vous mènera au bon endroit, normalement.
D'accord, mais peut-être vous reviendrez avant le 10 pour nous donner quelques détails supplémentaires sur le rendez-vous.
Là, en tout cas, on a le plus gros et puis pour le reste, on verra.
Tiffaine, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis Jadeva. Jadeva, merci beaucoup.
Merci.
Rendez-vous le 10 juillet à Pernes-les-Fontaines et puis peut-être avant sur notre antenne.